Georges Malbruno est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Georges, vous êtes grand reporter au Figaro et c'est cette région-là que vous connaissez le mieux. Vous avez aussi été correspondant à Jérusalem. Enfin vraiment, vous connaissez très bien le Liban, l'Iran, etc. Donc tout le monde aujourd'hui se demande comment ça a pu exploser comme ça, même si la situation était pourrie depuis un bon moment. Mais ce sur quoi je voudrais vous entendre en premier, c'est le fait que c'est très très loin d'être la première fois que la rue iranienne se révolte, y compris avec des jets de pierre contre le pouvoir, et qu'au final, on a toujours un peu peur d'être déçu, parce que jusqu'à présent, ça s'est toujours mal fini pour les manifestants. Ils n'ont jamais remporté, ils n'ont jamais gagné.
Ah non, ils n'ont jamais gagné, et je pense que ce sera vraisemblablement la même chose ici. L'Iran est secoué régulièrement des protestations, à la fois contre la vie chère, contre l'incurie des politiques publiques ou l'absence de liberté. Ça a été le cas en 2009, vous vous souvenez, alors là c'était des grandes manifestations monstres après le trucage de l'élection présidentielle. Ça a été le cas en 2018 contre la vie chère. Ça a été le cas en 2021 contre la pénurie d'eau. Donc voilà, c'est un régime qui est contesté par une fraction importante de la population, et donc c'est une population qui manifeste assez régulièrement, et lorsqu'il y a un danger assez important, eh bien le régime réprime s'il le faut, comme il l'a fait. Alors là, ce qui est un petit peu différent, c'est que si vous voulez, depuis sur l'histoire du voile jusqu'à l'élection du président ultra-conservateur Ebrahim Raisi, les autorités, donc sous la conduite d'Hassan Rouhani, un président modéré, disons, évidemment, le voile était toujours obligatoire, mais on voyait dans les rues de Téhéran parfois des filles qui se promenaient sans voile, ça ne durait pas très longtemps. Dans le nord de Téhéran, on voyait des femmes dans leurs véhicules qui n'avaient carrément plus de voile. Les autorités, face à cela, réprimaient un petit peu, tiraient, j'allais dire, les oreilles, mais ne se lançaient pas dans une répression. Ce qui a changé, c'est que depuis l'élection de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, eh bien, la police des mœurs fait plus de zèle, et là, on l'a vu, ils se sont, à mon avis, tirés une balle dans le pied parce qu'on l'a vu aujourd'hui, le président de la République, Mohamed Khatami, l'ancien président réformateur, le président du Parlement, Mohamed Bakr Khalibaf, des députés, un grand ayatollah, se sont élevés contre ces pratiques-là qui discréditent évidemment l'Iran et donc et le régime en particulier. Donc voilà, là, ça a été une grande maladresse. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez vu le représentant du guide dans la province kurde d'où est originaire Mahsa Amini, est allé aujourd'hui, cet après-midi, voir la famille pendant 2 heures pour lui dire qu'une enquête serait faite, etc. Le président Raisi, depuis l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, a appelé la famille également. On a le souci d'éteindre un peu l'incendie parce que, alors, il y a eu pas mal de manifestations, il n'y a pas eu des grands nombres de manifestants, mais quand même, il y a une colère très très forte, hein, parce que c'est inadmissible. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi inadmissible pour les ultra-conservateurs. Le voile, c'est un des piliers de la République islamique, hein. Et donc, toucher au voile, c'est toucher à la République islamique, c'est toucher à une composante, à l'ADN de la République islamique. Et donc, si on commence par lâcher sur le voile, se disent-ils, les ultra-conservateurs, eh bien, ça finira par le mariage pour tous. Et donc, ils sont extrêmement vigilants et il ne faut rien. Moi, je me souviens d'avoir interrogé un monsieur qui s'appelle Hossein Shariat Madari, qui est le patron du groupe de presse Kayan, qui est proche du guide suprême, qui est un ultra-conservateur. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très dur, hein, vraiment très, très dur, anti-américain primaire. Et je lui ai posé la question il y a 2 ou 3 ans. Je lui ai dit, mais si jamais un jour, vous avez 500 000 Iraniennes qui spontanément et en même temps quitte le voile, qu'est-ce que vous avez fait? Et là, il m'a répondu très calmement, eh bien nous, on en verra aussi 500 000 femmes partisanes de la République islamique pour montrer que, eh bien, elles ne sont pas majoritaires, etc. Alors, voilà, donc c'est un sujet très très sensible, le voile, parce que c'est un des piliers de ce régime, qui est un régime, comme vous savez, islamique, et donc ils sont assez vigilants, mais là, je pense qu'ils se sont un petit peu tirés une balle dans le pied.
Puisque vous parlez de majorité, on a une idée de ce que pensent les Iraniens? Parce que, en fait, on se dit souvent, voilà, c'est un peuple qui est très occidentalisé, souvent pro-américain d'ailleurs, au risque de surprendre.
Oui.
Mais et tenu par une minorité. C'est vrai ça ou pas du tout? Ou non, le régime iranien...
Oui, c'est vrai. Non, vous savez, le régime iranien souffre d'un déficit de crédibilité. C'est difficile de le chiffrer, mais il y a un indice qui est assez quand même probant. C'est à chaque élection présidentielle, si vous faites l'addition des voix au premier tour des candidats qui sont vraiment issus du système, hein, qui sont des purs produits du système, vous arrivez à les 25% des votants, sachant qu'il y a une grande part d'abstentionnistes. Donc, si vous voulez... Bon, aujourd'hui, si on veut être généreux avec la République islamique, on dirait qu'un peut-être un tiers de la population, et encore, je pense que je suis au-dessus de la réalité, je veux dire, défend ce régime. Bah, c'est un régime qui est un petit peu qui est épuisé, qui est... Bon, les Américains ont tout fait, Trump ont tout fait aussi pour le délégitimer, pour casser l'accord nucléaire. C'est un régime qu'Israël humilie assez régulièrement par ses opérations de à la fois d'infiltration, etc. Donc, la population, elle en a quand même globalement assez, notamment les jeunes, c'est une population qui est jeune. Donc voilà, donc 25% de la population soutient le régime. Simplement, c'est pas un scoop ce que je vous dis. Ceux qui s'opposent au régime, bah, ils s'y opposent, je vous ai dit, depuis 2009, et même avant, mais 2009, la révolution verte, qui s'est terminée par une répression, par la mise en prison de Mir Hossein Mousavi et de Karoubi. Ils n'ont rien obtenu, et ils savent que les jeunes révolutionnaires savent que face au régime et à ses instruments de répression, ils ne font pas le poids. Donc ils ne sont pas prêts à faire une deuxième révolution. C'est pour ça que là, ça ne débouchera pas sur un changement de régime, ça ne débouchera pas sur une révolution. Mais simplement, quand même, moi ce qui me frappe, c'est que, si vous voulez, la succession de ces secousses-là fait qu'un jour ou l'autre, quand même, il peut y avoir une comment dirais-je, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
À chaque fois, je me pose la question. Mais je pense que c'est parce que je le souhaite secrètement. À chaque fois. Là encore, cette fois, j'ai vu hier soir, j'ai dit, c'est passé cette fois. Mais non.
Non, pas du tout. Les réseaux sociaux amplifient quand même beaucoup. Non, puis c'est un régime qui a sophistiqué les moyens de répression, qui sont, je veux dire, ils sont extrêmement à l'aise. Il n'y a pas d'opposition chez eux, et il ne peut pas y avoir d'intervention extérieure, parce que, je veux dire, ce serait l'Iran, c'est pas l'Irak de Saddam Hussein. Donc voilà, c'est pas un régime qui est menacé. Sauf que si un jour, effectivement, il y a 500 000 effectivement, femmes qui descendent dans la rue et qui ôtent leur voile, ça posera un problème, mais le régime sera est prêt à tout pour sauver sa peau, y compris à tirer dans la foule. Donc voilà, simplement, c'est un élément de plus dans un discrédit qui est assez large, hein, et qui ne fait que s'accroître.
Vous savez, il y a une militante des droits de l'homme qui habite aux États-Unis, qui a d'ailleurs échappé à deux tentatives d'assassinat des services secrets iraniens en territoire américain. Les gars, ils sont des barbouzes, ils sont allés le chercher en bas de chez elle. Et elle fait des vidéos. Mais ce qui me frappe, moi, dans ces vidéos où on voit des femmes qui enlèvent leur voile dans le bus, dans la rue, c'est la réaction de la population. Oui. Les gens ne sont pas énervés contre elles. L'Iran, ça a été un pays très énervé. À l'époque, en 1979, c'était vraiment la rue qui était très, très remontée.
Oui,
là, aujourd'hui, les gens, ils sont pas contre ces filles qui enlèvent le voile. Ils sont effectivement fatigués, souvent très tristes.
Voilà.
Ils sont résignés
parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas renverser le régime. Ils étaient pour une évolution et non pas pour une révolution avec le mouvement réformateur. Le mouvement réformateur à partir de 2009 et donc du mouvement vert là a été laminé. Aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement réformateur, il n'y a plus d'opposition. C'est ça qui est un petit peu tragique, parce que l'autre élément important qu'il faut souligner, c'est que, si vous voulez, le régime est un peu un moment charnière. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a 83 ans, il y a des rumeurs sur son état de santé, et donc il ne va pas vivre encore 10 ans. Et donc, depuis l'élection, depuis 2021, l'élection de Raïssi, il y a une volonté de préparer la succession et de purifier l'appareil étatique des éléments réformateurs qui étaient présents depuis une bonne quinzaine d'années. Et donc, il y a eu, au cours de ces 15-20 derniers mois, une purification des éléments réformateurs à la fois dans l'administration et dans le business, dans les affaires, etc. Et pour tout ça pour un retour, moi ce que j'appelle la pureté idéologique et révolutionnaire du régime voulu par l'ayatollah Ali Khamenei lui-même, qui veut un retour à 1979, et le voile, c'est un des éléments de ça. C'est pas le moment, justement, de lâcher sur le voile, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que l'Iran est à un moment charnière et un moment qui n'est pas favorable à une ouverture, quoi. Et en plus, il y a le report, l'accord sur le nucléaire, donc les dividendes attendus par la population ne sont pas là. Donc voilà, tout ça fait que je pense que le régime sait qu'il est un peu vulnérable, et donc c'est aussi la raison pour laquelle il a réagi promptement, à la fois d'une manière sévère, en niant comme d'habitude, en disant qu'il n'y était pour rien que ça, mais aussi en donnant quelques gestes, en remplaçant le chef de la police religieuse, et puis en envoyant donc un représentant, voilà, ouvrir une enquête, etc. Voilà, parce que ça boue quand même. Hein, moi, j'y suis parlé depuis un an et demi, mais la situation économique et sociale n'est pas bonne du tout. Et puis, il y a cette pression sociale et sociétale qui est plus forte, et donc on l'a vu aujourd'hui, ben, ou depuis 3-4 jours, ça a été très rapide pour que après cet assassinat, probablement, eh bien, la rue s'enflamme, quoi.
En allant voir Laila et ses frères, qui est un film iranien, qui est un beau film iranien, que vraiment le cinéma iranien est devenu quelque chose de très beau. Toute l'histoire est tellement implacable, sans espoir, tellement brutale, dure. Il n'y a pas une lueur d'espoir. Je me suis dit, c'est un très grand metteur en scène. Je me suis dit, c'est à l'image de ce que pensent les Iraniens de leur société. Ils pensent.
C'est bloqué. On est dans une impasse. On est dans une impasse parce que la révolution, ils en ont fait une en 1979, ça leur a coûté des centaines et centaines de milliers de morts. Ils ont essayé d'en faire une en 2009, ça leur a coûté en 2009 des centaines et centaines d'arrestations, une répression. Donc, ils n'ont pas les moyens. Et comme ils ne veulent pas, l'opposition à l'extérieur ne compte pas, il n'y a pas d'alternative au régime, et une intervention extérieure est hors de portée. Donc, ils sont dans une impasse. Et donc, ils ont pensé à une évolution du régime avec les réformateurs. Bon, ça n'a pas marché pour différentes raisons. En interne, Trump a tout fait pour que ça ne marche pas. Et donc, aussi dans une impasse. Donc, quand vous êtes dans une impasse, ben, la solution, c'est l'immigration, c'est d'aller à l'extérieur. Et c'est, voilà. Donc, avec le risque, quand même, c'est que tôt ou tard, quand même, cette société, même si elle est résignée, il y aura un moment où elle, vraisemblablement, redescendra dans la rue, elle manifestera, et on sait jamais comment ça peut tourner, parce que le comment dirais-je, depuis quand même une quinzaine d'années, il y a eu des espoirs avec les réformateurs Khatami et Lyon 97, et ensuite les espoirs ont été déçus, il y a eu de nouveau des espoirs avec Rouhani, ces espoirs ont été déçus. Donc, si vous voulez, lorsque tous ces espoirs déçus sont ajouter à la fin, la coupe peut être pleine, et on assistera probablement à d'autres, ça c'est sûr, à d'autres mouvements sociaux, des mouvements de contestation, mais avec toujours le grand point d'interrogation, c'est même pas un point d'interrogation, à mon sens, c'est que il n'y a pas aujourd'hui de menace sérieuse contre ce régime, voilà, parce que c'est un régime qui a su en plus se faire des, comme vous le savez bien, se constituer un réseau de relais hors de son pays, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, en Irak, les milices, pour que ces gens-là réagissent, ripostent en leur nom et même pas au nom de l'Iran, si jamais il y a une attaque contre eux. Donc voilà, et une guerre contre l'Iran est impossible. Voilà, s'il y a une attaque contre l'Iran, c'est très dangereux. Donc voilà, on est dans une impasse, on est dans cette impasse.
Alors vous m'amenez à ma dernière question.
Prier pour les Iraniens.
Pardon ?
Oui.
Il faut prier pour les Iraniens ?
Non, je dis, et les premiers à en payer le prix sont les Iraniens, parce qu'ils sont, ils sont dans cette impasse, quoi.
Hein. En même temps, c'est la même chose. Hein. Il faut prier pour les Iraniens, et les premières victimes, c'est les Iraniens. Mais vous m'amenez à ma dernière question. en voyant l'état de l'armée russe. Vous allez me dire, mais quel rapport ? En voyant l'état de l'armée russe, il y a un grand colonel, un grand général américain qui a dit, elle est pourrie cette armée. C'est celui qui a formé les Ukrainiens dans le Donbass en 2014. Il a dit, cette armée, elle est pourrie. Je me suis demandé si c'était un peu pareil du côté iranien. Est-ce qu'on n'est pas... C'est plus de pièces détachées, pas de commandement, des gens démoralisés. Est-ce qu'on n'est pas un peu aussi en Iran? Alors oui, c'est tout à fait autre chose, mais ça nous donne ça nous donne à penser. Non, c'est pas pareil. Est-ce qu'on n'est pas face à une armée qui est pourrie de l'intérieur? Un régime qui est...
D'abord,
il n'y a plus d'avions, il n'y a plus rien.
En Iran... Oui, non mais d'accord, mais en Iran, il n'y a pas d'armée. Il y a une armée, l'Artesh, qui était l'armée du Shah et qui ensuite a été, je dirais, presque désarmée et à la place a été construite ce qu'on a appelé une unité d'élite, les gardiens de la révolution, qui sont la véritable armée et qui ont le pouvoir sur le nucléaire, qui ont le pouvoir économique, etc. Et donc eux qui fabriquent les drones, qui sont responsables du nucléaire, et donc eux, ils sont quand même extrêmement puissants et extrêmement dangereux. Et non, je pense que non, il ne faut pas... En Israël, on sait très bien, l'armée iranienne ne pose aucun problème, mais c'est pas le problème, c'est pas l'armée, c'est les gardiens de la révolution qui, eux, sont entre les mains du guide suprême, et c'est eux qui sont en charge des relais de l'Iran hors de ses frontières, Qassem Soleimani, celui qui a été assassiné, et qui ont la maîtrise d'industrie des drones, et qui sont très dangereux.
Ils sont très sérieux,
en Israël, on les connaît. Donc en 2006, c'était le Hezbollah, c'était une sous-division des gardiens de la révolution. Et donc vous avez subi 33 jours de à la peine. Hein, face à, donc
une guerre qui n'a pas été gagnée.
Exactement. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'issue militaire aux différends avec l'Iran. C'est pour ça qu'il faut négocier avec l'Iran. C'est pour ça qu'il faut renégocier un JCPOA. C'est voilà. Donc il faut faire en sorte, faut intégrer ce pays dans le concert des nations pour lui éviter de se tourner vers d'autres et en particulier vers la Russie, vers la Chine.
Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste de cette région, spécialiste de tout le Moyen-Orient, merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Bernard.
Voilà, cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas que c'est la semaine du Vada Rabbanim sur Radio Shalom et que vous pouvez appeler au 0800 106 135. 0800 106 135 pour aider les plus démunis avant les fêtes de Rosh Hashanah, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, que ce soit des Français qui se sont paupérisés ou des Ukrainiens, des Russes qui sont arrivés et ils ont besoin d'être aidés. 0800 106 135 pour le Vahad Arabanim. Voilà, vous pouvez toujours télécharger l'application Radio Shalom sur votre téléphone portable, que ce soit un iPhone ou que ce soit un Android. N'oubliez pas d'écrire Shalom avec un S, c'est-à-dire Radio Shalom, S-H-A-L-O-M. Voilà, excellente soirée à tous et vous retrouvez dans un instant le journal de Pierre Gandus.